Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, rebonsoir ou bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite tardif en raison cette semaine encore de la campagne pour les européennes. Alors cette nuit, les fans de la série Game of Thrones se sont couchés très tard. Certains sont en fureur aujourd'hui. Les débats font rage à 3h du matin. Fin de la série, allez, on passe à autre chose. D'autant qu'on a du temps maintenant parce que la semaine dernière, on sonnait aussi la fin de The Big Bang Theory. Autre série phare de la télé américaine que je n'ai jamais vue. Et au même moment, on apprenait la mort de Shérif, une série policière française à succès sur France 2, dont je ne me connaissais pas non plus l'existence. Mais si, bien sûr. Bref, alors qu'on pensait n'entendre parler que de cinéma, Cannes oblige, eh bien les séries se sont encore une fois de plus imposées dans le débat. Alors, que le ciné Cannes, les séries dans, c'est un titre de cet homme aux yeux carrés qu'est Benoît Lagane,
ouais,
qui nous refourgue encore un sujet série ou énervé. Il faut dire que l'actualité est dense. Fin de série culte, plan série du CNC, déjeuner présidentiel pour appeler à l'union des professionnels de l'audiovisuel contre les grands méchants du numérique, de quoi faire perdre la tête à nos invités et me faire bafouiller par la même occasion. La scénariste et créatrice de série Camille Pouzol, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, le journaliste et critique série de Télérama Pierre Langlais, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, la tête chercheuse de la Sorbonne Nouvelle et de la revue télévision, elle en rit déjà, Séverine Barthes. Le énervé de la suite, c'est tout de suite.
Mais France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Cette phrase ne zappait pas, vous sonnez quand même.
Bah oui.
C'était qui? Morandini.
Oui, ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'était terrible. Il faisait ça avec un œil accusateur et puis un
oui,
index pointé.
Ah oui, le Morandini de la télévision.
Oui, d'accord. De la télévision. Oui.
Oui.
Vous la regardez la télévision de temps en temps?
Oui, bien sûr. Et j'aime les séries, Laurent.
Ben, ça, on le
et
sait.
Aimer les séries, ce n'est plus un problème. Enfin, vous avez quand même noté que quand on parle de séries, il y a toujours quelqu'un pour vous dire, quand il aime une série, hein, il y a tellement de cinéma dans cette série, c'est extraordinaire. Idem, quand on sort du cinéma et qu'on n'a pas aimé un film, il y a toujours quelqu'un pour dire que ça ressemble à un téléfilm. Le cinéma restera toujours la référence, la série, l'indifférence. Exemple, si ce soir je veux dire le plus grand bien de Double Jeu, votre comédie policière Camille Pouzol, instinctivement je vais citer des références du genre Remington Steele, Castle, Bones, Ally McBeal, mais ça ne fera réagir que les sériphiles téléphiles.
Bon, alors, franchement, Ally McBeal, moi qui ne suis pas sériphile, j'adorais.
Oui, bah oui, mais
et
ça
Castle, je connais.
Bah oui.
Et Remington Steele aussi.
Oui, mais alors je pourrais citer Woody Allen ou la Screwball Comedy. Et là, tout d'un coup, un monde de cinéphiles sera intrigué. Ils percevront peut-être comme moi ces références et là... C'est gagné, tout le monde va crier au génie. C'est la dure loi des séries. La série, c'est l'éternelle petite sœur du cinéma. Et puis une petite sœur adolescente au visage boutonneux. Souvenez-vous, l'an dernier, Thierry Frémaux, c'était l'an dernier, hein, Thierry Frémaux du Festival de Cannes, le plus grand festival du monde, qui déclarait que les séries, c'était industriel et que le cinéma de la poésie. Oui, il a dit ça encore en 2018. Il disait aussi, il faut 18 heures pour raconter une histoire qui tiendrait parfois en deux. Game of Thrones, tout le monde en parle, mais personne n'est capable de citer le moindre réalisateur. Là, Pierre Langlais, je sais, quand on dit ça, vous Game of Thronisez votre adversaire, en général.
Pour celui Dracarys. Qui...
Voilà. comment vous comprenez qu'en 2019, alors qu'on pense, et que c'est clair, les séries sont une référence assumée, qu'il y a encore une peur du 7e art envers la série? C'est que la série est une concurrente du cinéma sur le plan économique et industriel?
Alors certainement en une certaine mesure, mais je pense aussi que c'est une alliée de poids. On a bien vu comment aux États-Unis et d'ailleurs en France de plus en plus les deux industries travaillent main dans la main, et ça aux États-Unis depuis bien longtemps, depuis au moins 40 ou 50 ans. Hitchcock lui-même faisait le petit pont entre les deux, c'est encore un truc très français, je pense, très français peut-être d'autres pays, mais vu qu'on est en France, autant dire que c'est très français. Je pense que c'est plutôt un manque de culture que, désolé monsieur Frémaux, un manque de culture qu'un problème économique, que de considérer que les séries, c'est encore finalement un sous-cinéma ou un petit quelque chose du cinéma. C'est une forme de condescendance d'une certaine génération essentiellement, qui je crois est en train de disparaître, et c'est pas l'insulter de dire que là c'est une réflexion de dinosaure qu'il a fait. D'ailleurs certains ont dit ma grand-mère aurait dit ça, ça se trouve ça...
Moi oui, ma grand-mère... En fait, quand on regarde Picasso, certains disent mon enfant aurait fait ça.
Ma non, mais...
C'est pas non plus les réflexions les plus...
Non, mais moi ma grand-mère aurait regardé, je pense, les séries, si elle était encore de ce monde, faut arrêter.
Elle en a regardé, j'imagine, votre grand-mère des séries.
Oui, mais très certainement,
bien entendu.
Camille Pouzol, vous, en tant que scénariste, comment vous observez tout ça? Avant l'émission, on se disait ça, on se disait c'est fou d'en être encore là.
Oui, je trouve ça très très dommage surtout. J'ai l'impression que ça fait un peu peur aussi. On critique beaucoup ce qui nous inquiète et le cinéma a l'impression qu'il faut s'accrocher à quelque chose voilà, pour écrire pour les deux, c'est-à-dire autant pour les séries que pour le cinéma, un peu plus pour les séries. En tout cas, en matière de création narrative, il y a de quoi vraiment beaucoup travailler et beaucoup s'amuser dans les deux cas, mais c'est un boulot complètement différent. Et j'ai pas l'impression qu'on soit là pour se tirer la bourre ou surtout le problème.
Bah, peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde non plus.
Il n'y a pas d'argent pour personne.
Bon, voilà, ça, oui, mais alors il y en a encore moins pour certains, non ?
Il y a surtout, pour moi, un truc de jugement de valeur qui me dérange beaucoup. Ça veut dire moi, les séries, ça m'intéresse pas du tout. J'en ai rien à foutre. J'ai envie de sortir, d'aller au spectacle, parce que pour moi, c'est ça le cinéma depuis toujours. Voilà, ça c'est mon père. Et pourtant, il a une fille qui fait des séries, mais bon. C'est autre chose. Mais de dire tout d'un coup, il y a un art majeur et il y a une sorte de chose pour les gens qui restent dans leur salon, je trouve ça super dommage.
Voilà. Qui s'est levé à 3h du matin pour regarder la fin de Game of Thrones, toujours ?
Non, moi je me lève à 7h du matin, j'allume ma télé, je le regarde à ce moment-là. C'est magique, le replay, tout ça, c'est la technologie, c'est bien plus facile que de rester à 3h du matin. Ceci étant dit, il y a des gens qui sentent une forme de direct, comme si c'était la finale de la Coupe du Monde.
Bah oui.
Moi, en fait, j'aime bien regarder les séries au risque.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous faites partie des gens qui sont
en fureur. Je ne vais pas dire ce que j'en ai pensé, parce que en fait, ça fait partie du spoiler, vous savez, maintenant, sur une série comme Game of Thrones, dire à quelqu'un, voilà ce que j'en ai pensé, si la personne en face l'a vu, il n'y a pas de problème. Si la personne en face ne l'a pas vu, je l'expérimente dans l'open space de Télérama. Dire à haute voix « Oh là là, c'était pas terrible, oh là là, c'était génial. »« Oh mais non, on ne veut pas que tu nous dises ce que t'en penses, on veut. » Voilà. Donc évidemment, le critique est un peu frustré par cette posture-là, mais pour une série comme Game of Thrones et surtout pour son dernier épisode, je garderai mes commentaires. C'est une série sur laquelle j'ai beaucoup écrit, y compris en mal, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de belles choses à dire.
Les autres, vous l'avez vu ou pas ?
Oh là là, moi, je suis très tranquille. Je vais faire un bon coming out sur Game of Thrones. J'ai arrêté en saison 4. Et vraiment avec une excuse pourrie. Ça veut dire juste j'ai lâché, j'ai pas eu le temps. Et je pense que comme j'ai adoré les 4 premières saisons, tout le monde me dit va au bout, va au bout. Je sais pas si j'aurai le temps. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, si on loupe 1, puis 2, puis 3, il y en a. Honnêtement, j'en regarde 10 par semaine minimum. Donc s'il faut suivre, il faut suivre. Donc c'est trop tard.
Non, moi, c'est une série que j'ai pas regardée.
Mais du début jusqu'à la fin.
Du tout.
mais comment on peut comprendre ça ? Enfin, moi, pas non plus, mais bon.
Il y a beaucoup de choses à regarder.
Ouais, d'accord.
Après, observer le phénomène actuel sur la dernière saison sans l'avoir vu, c'est très 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 intéressant. C'est-à-dire les discussions sans avoir vu les images de la fameuse bataille trop sombre, du pouvoir des dragons, du truc de Daenerys qui change. En fait. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Non, mais c'est passionnant.
Là, il y a une bouteille d'eau. Dans le dernier épisode, il y a une bouteille d'eau.
C'est un running gag sur le 8. Ils ont dit il y aura un objet par épisode à vous de le trouver.
Mais Séverine Barthes, justement, vous qui vous intéressez notamment à la façon dont le numérique, très tôt, dans des séries comme X-Files déjà, a pu influencer les séries. Là, on a vu une pétition, quand même, qui a demandé avec plus d'un million de signatures pour qu'il y ait à nouveau une 8e saison de Game of Thrones. On change les scénaristes et puis on réécrit tellement les fans n'étaient pas contents du résultat. Comment vous percevez ça ? C'est quand même fou qu'on en arrive là.
Moi, je crois qu'il faut arrêter Facebook. Il faut arrêter le numérique. Mettez-moi à la tête de l'État, je vous arrête tout ça. Non, mais c'est pas possible, quoi.
Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où certains fans, parce qu'il faut arrêter de dire les fans, ont l'impression d'être propriétaires de la série, que les scénaristes leur doivent. Ou les producteurs, ou les réalisateurs, enfin toute la production au sens large, leur doit quelque chose. On pourrait très rapidement se dire, ah bah c'est un peu comme quand il y a des gens qui font une pétition, qu'on fait des pétitions pour le retour de Véronica Mars, pour le Caméléon, pour les Timeless, etc. Donc des séries qui étaient arrêtées où les gens faisaient des pétitions pour que ça revienne. Moi, je trouve que c'est extrêmement différent dans le sens où, bah dans le cas précédent, c'était une sorte de déclaration d'amour immodéré et on en veut plus et c'est montré aux diffuseurs, qu'en fait, il y a encore un public qui est là.
C'était de la confiance, en fait.
C'était de la confiance, et c'était aussi, ça s'adressait plus aux diffuseurs qu'aux gens qui font la série. C'était de leur dire, faites confiance à votre public, on sera là, on regardera, on fera rentrer les rentrées publicitaires, puisqu'on sera devant, vous pourrez vendre notre temps de cerveau disponible. Alors que là, c'est un vrai signe de défiance.
C'est un balance ton scénariste, c'est vraiment un balance ton scénariste, là, quand même, ce qui se passe.
Non, mais c'est hallucinant. Je me souviens aussi de la fin de Six Feet Under, qui est, je pense, une de mes séries préférées au monde, où il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de remerciements et de gens qui disent juste merci pour ça, merci pour ces années-là, merci pour ce dernier épisode inouï. Moi, j'ai fait une vraie dépression nerveuse, mais physique après. Oui, j'avais l'impression que je pourrais plus vivre sans ces gens. Jamais.
C'est considéré comme un des rares grands finales de l'histoire des séries télé qui fait à l'unanimité. Un, deux, trois. Il y en a quelques-uns. Il y a celui de The Shield aussi. Par contre, vous prenez les finales, on va faire un anglicisme, des Sopranos et de Lost, pour n'en citer que deux. Oui. Ça a été déjà à l'époque. Alors, il n'y a pas eu de pétition parce que je pense qu'on n'était pas à ce niveau-là.
Lost, ils se sont fait bien allumer.
Mais Lost, le pauvre Damon Lindelof, un des créateurs de Lost, il a vécu un enfer. Enfin, on lui a vraiment envoyé des messages de haine profonds, quoi.
Mais maintenant, on dirait qu'ils veulent le pouvoir sur un truc comme une fin interactive. Ça veut dire, en fait, ils voudraient avoir une zapette et dire, toi, j'ai pas envie que tu meurs, donc tu meurs pas. Toi, j'ai pas envie que tu... Mais c'est ça aussi. Moi, je trouve que la frustration, l'émotion, la tristesse fait partie de la vie. Un personnage qui meurt dans une série, c'est toujours dur quand on y est habitué. Je pense qu'il y a eu des grands héros qui sont morts dans des séries et la manière dont les scénaristes rebondissent après, c'est génial aussi. Ça peut être génial.
Justement, quand vous... Oui, Pierre Langlais.
Non, j'allais rajouter que c'est quand même un truc que je trouve hyper problématique, que je trouve aussi problématique que tout ce qui se fait en termes d'épisodes interactifs en ce moment. Il y a des épisodes interactifs. En fait, pour moi, une œuvre, c'est la création de quelque chose. D'ailleurs, ce dernier épisode en parle. Je vous dirai pas comment, mais ils en parlent de ça. Il y a quelqu'un qui raconte une histoire, et cette personne-là, il faut lui faire confiance, quitte à être en désaccord avec elle. Mais ce monde dans lequel on voudrait toujours avoir le contrôle de quelqu'un, c'est symptomatique du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'une série, c'est une histoire, on se laisse prendre par la main et on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de gueuler.
On a le droit de partir
hyper
aussi.
Sain. Oui. C'est mon métier de pas être d'accord ou de gueuler ou d'être d'accord. Sauf que de dire, alors non, je suis pas d'accord, tu vas me changer ça, c'est ne rien comprendre à la nature même des histoires qu'on nous raconte. Ce qui est vraiment problématique.
Camille Pouzol,
vous faites une pétition pour changer la fin d'Autant en emporte le vent. Moi, ça me fait énormément de peine, mais bon. Si c'était une autre fin, est-ce que ce serait devenu ce roman-là? Voilà, c'est ça aussi. Alors, je compare pas Autant n'importe le vent à Game of Thrones. C'est deux œuvres d'art différentes. Mais je trouve que ça nous viendra jamais à l'idée de dire, oh ben non, Notre-Dame de Paris, cette fin, c'est pas possible.
Vous lancez vendredi, vous, sur France 2, Double Jeu. Quand vous vous lancez dans l'écriture de la première saison, vous en connaissez l'issue?
Ouais. Mais même de la 2
donc
et de la 3, c'est ça.
Donc la fin sera réussie? Ce sera une bonne sortie de fin?
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé en tout cas d'écrire cette série avec une arche. Donc ça veut dire que ça ne fait que monter pour moi. Et j'ai essayé, oui, de faire un final qui m'intéressait. Puisque la comédie policière, j'aime bien. Mais j'aime bien quand il y a un peu de fond. Voilà, comme c'est l'histoire d'une capitaine de police qui enquête avec son ami imaginaire. Si en fait, c'est... Eh ben voilà, c'est le concept, c'est rigolo. Elle pourrait enquêter avec une tortue, ce serait sympa aussi. Voilà, moi je pense que si on a un ami imaginaire à 40 ans et on a bossé avec une psy... c'est pour plein de raisons qui sont pas forcément que fun et drôle. Et à un moment, j'aime bien quand il y a un poil de socle sur un personnage. Et voilà, j'avais envie de parler de plein de choses où on va me dire, ah ben c'est très bizarre alors. Ouais, de résilience, d'abandonnie, de solitude, d'une femme à 40 ans qui a un lien avec l'enfance, qui elle tient la main de l'enfant qu'elle était et pour une raison qui n'est pas forcément drôle. Et ça reste pourtant une comédie policière, mais si ça n'est que ça, ça m'amuse pas. Voilà.
Qui incarne cette psychopathe?
Elle s'appelle Carole Veillas. C'est une Belge qui habite depuis longtemps à Los Angeles et qui n'a jamais rien fait en France. Et je dois souligner que
c'est
là,
la
pour
raison
le
pour
coup,
laquelle
le...
vous l'avez choisi.
Moi, je voulais une inconnue.
Ah ouais.
Je dois avouer qu'au début, la chaîne était oh vraiment, t'es sûre, sûre. Et je trouve que là, pour le coup, France 2 a été vraiment cool avec nous parce que quand ils l'ont vue en essai, moi, j'avais tous mes doigts croisés en me disant c'est ça là, voilà. Ils ont dit. Rien à dire, elle est formidable. Vas-y,
mais
l'ami, courage.
Mais l'ami imaginaire, lui étant bien connu, ça a dû faciliter.
C'était François écrit Vincent pour lui, Telly. François, donc c'est assez simple. On s'est rencontrés.
François Vincent Telly, ouais.
Voilà, on s'est rencontrés sur Hard en fait. Moi j'ai écrit la saison 3 de Hard.
Il vient d'avoir un Molière là pour, voilà.
Pour le canard à l'orange. Ouais. J'ai écrit ce personnage là pour lui. Quand je lui ai proposé, avec les timings de tournage, etc., il m'a dit « je ne peux pas, je suis au théâtre pour Hard, ensuite au théâtre pour le Canard à l'Orange, et puis à la Philharmonia, et puis à ci, et puis à ça ». Donc j'ai dit « bon, j'oublie ». On a vu d'autres gens, j'arrivais pas à oublier, et un jour je l'ai rappelé, et je lui ai dit « je t'en supplie ». Et il a lu les scénarios, il m'a dit « écoute, l'inconscient d'une femme, ça se refuse pas, je vais te le faire ». Voilà. Donc il était sur le plateau toute la journée, au théâtre, tous les soirs.
Eh bien, elle aussi, elle brille dans la série Vernon Subutex, et sur la croisette, Fishback fait feu tout de suite dans le NRV.
Le feu toujours dans la voix de Fishback, la programmation pyromane de Jean-Baptiste Audibert ce soir.
Si on veut garder une fiction française et d'ailleurs une fiction européenne forte, il faut que les acteurs qui y concourent,
le nouveau rendez-vous,
en maîtrisent la distribution.
Delphine Arnaud a raison, il y a besoin de faire bouger l'Europe, qu'on puisse bâtir des géants, nous aussi, européens, pour concurrencer les géants américains et chinois.
Laurent Goumard.
Le Netflix européen, moi j'y crois.
Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds de 225 millions d'euros pour l'ensemble du secteur.
Notre idée, c'est vraiment d'encourager la prise de risque et d'essayer de soutenir les créations les plus originales et celles qui ont une ambition internationale justement très forte.
Sur France Inter.
Pendant que le Ciné-Cannes, les séries d'ange, je ne comprends toujours pas le titre, Benoît Lagagne, il y a un jeu de mots, je pense.
Bah oui,
c'est référence au Festival de Cannes.
Bah oui.
Alors, juste, je voudrais parler de cette annonce du président de la République qui, avec la création d'un fonds de 225 millions d'euros afin d'aider les entreprises du marché à se développer et à lutter contre la concurrence étrangère. C'est une urgence absolue selon vous, Camille Pouzol, vous qui êtes scénariste et créatrice de séries.
Bah oui.
C'est quand même le nerf de la guerre, non, à un moment donné.
Oui. Oui, c'est sûr. Comme pour avoir bossé avec les Américains, pour avoir beaucoup étudié comment ils bossent là-bas. Le vrai problème, c'est vraiment les sous. Ça veut dire que ils sont pas plus brillants, voilà, mais ils ont
plus riches.
Plus de gens. Mmh. Ça me fait toujours rire quand sur Double Jeu, ils m'appellent la showrunneuse. Parce que la différence entre un showrunner américain et moi, c'est 150 personnes au bas mot, quoi. Ça veut dire que nous, on fait vraiment, voilà. Donc oui, je pense que c'est important. Ils ont beaucoup plus de sous. C'est pour ça qu'ils font des ateliers. Les ateliers, c'est super, mais ils en font 15. Sur Lost, il faut penser par exemple qu'il y avait un atelier avec 30 personnes qui travaillaient à plein temps sur un seul sujet, qui était le triangle amoureux entre Kate, Sawyer et Jack. C'est tout. C'est tout ce qu'ils faisaient toute la journée, tout le temps. Bon ben voilà.
Ça a donné une fin lamentable.
Moi j'aime bien Lost.
Pas si lamentable que ça.
Non, moi j'aime bien la fin de Lost, je suis désolée. Mais voilà. Et voilà, moi je suis ravie parce que j'ai un atelier et c'est très très rare.
Combien de personnes ?
On est 5 et on s'éclate. Mais
c'est pas si mal.
Mais déjà, je vous jure que c'est très très rare. Voilà, quand j'ai demandé au producteur si on pouvait, moi je coécris tous les épisodes, si je pouvais avoir un atelier qui où on brainstorm, on fasse les arches ensemble, on fasse les enquêtes ensemble, on essaye de pas être seul à tout faire, et qu'il a dit oui et qu'il nous a donné une pièce dans la maison de production pour le faire, mais c'est rarissime en fait. Ça peut peut-être faire sourire les Américains, mais où il y a 35 salles avec 75 personnes qui travaillent, puis des gens qui font des résumés, en rose le résumé salle, en vert le résumé enquête. Sur Castle, c'est pareil, c'était une usine à gaz. Enfin, je veux dire, voilà. Mais ça se paye. Les gens, ça se paye.
Les 225 millions d'euros, ils vont servir à quoi, Pierre Langlais ? À lutter contre qui ? Ah bon ? On n'est pas économiste ?
Non, je ne suis malheureusement pas économiste.
On s'est trompé d'invité, Benoît ?
Non, mais très, très honnêtement, oui, qu'il y ait besoin d'argent, ça c'est sûr. Après, vous avez l'impression que je tourne en rond avec ce que j'ai pu dire au début. Mais je pense aussi qu'il y a, en plus de l'argent, une question d'évolution des mentalités qui est très importante quant à la confiance qu'on peut faire aux créateurs, qu'on peut donner aux créateurs. Et il y a des chaînes qui travaillent avec très peu d'argent. Évidemment, le meilleur exemple étant OCS, qui avec très peu d'argent, mais beaucoup de confiance envers leurs auteurs, alors ont réussi à faire parfois de très mauvaises séries, mais aussi de très bonnes, comme Irresponsable, où ils ont donné sa chance à un auteur qui sortait d'école, Frédéric Rosset, pour pas le nommer, et ça a fait une très bonne série. Donc après, oui, l'argent, pour compléter le propos de Camille Pouzol, oui, l'argent, c'est capital, c'est le cas de le dire.
Surtout quand même, il va falloir lutter contre les plateformes, contre Netflix, contre Amazon.
Sauf qu'il va peut-être falloir aussi lutter contre nous-mêmes.
Contre nous, ça, c'est
voilà.
Sûr.
Et ça, c'est important.
Séverine Barthes, vous êtes d'accord sur cette idée où finalement, il n'y a pas que des problèmes d'argent aussi pour lutter face à Amazon et Netflix. Il y a certes de l'argent, mais aussi des idées, il y a aussi tout un système.
Pierre d'argent, en fait, c'est vrai qu'il a tout à fait raison, Pierre, ça ne suffira pas si on ne change pas.
Mais il y a déjà, on peut reboucler avec le début de l'émission, il y a aussi cette idée du cinéma versus la série télé qui, je pense, ne dessert au fond la série télé dans la manière dont les financeurs, dont les gens qui ont de l'argent vont aller investir dans tel ou tel programme, émission, etc. Et ces représentations, elles sont aussi chez une partie des gens qui font la télévision ou le cinéma, parce que sinon on n'aurait pas des déclarations du type je fais pas de la série mais un film ou j'ai fait de la série mais je préférerais faire du film, enfin toute cette tension entre série et enfin entre télévision et cinéma, elle n'est pas que chez les spectateurs, elle est aussi en partie dans l'industrie,
parce que quand on donne 225 millions on donne aux industries
mais à qui
créatives
on donne ça,
oui. Donc à qui on donne,
oui, au final à qui on donne,
y compris le disque, etc. Quand on commence à regarder un petit peu les choses, c'est aussi l'industrie phonographique, etc. C'est-à-dire que c'est pas du tout que les industries audiovisuelles, de ce que j'ai cru comprendre.
C'était quoi l'accord qu'a signé France Télévisions avec l'ensemble des producteurs français? Ça servait à quoi?
Alors l'idée, c'était d'empêcher... Enfin, ce qui a servi un peu de repoussoir, c'est par exemple une série comme 10% qui à peine finit d'être diffusée
sur France 2.
Sur France 2 passe sur Netflix.
Ouais, ouais.
Et donc l'idée, c'est de faire une Salto, qui serait une plateforme française qui fédérerait TF1, France Télévisions, M6.
Mmh, d'accord. Donc la production française sur Salto et qui ne passerait pas sur les chaînes des plateformes américaines.
Enfin, moi, ce que je vois un peu, ce serait une sorte de Hulu à la française, en fait. Si les Français connaissaient Hulu, c'est-à-dire Hulu, c'est une plateforme qui existait même avant Netflix et qui était créé par un consortium de chaînes américaines. Et à la base, c'était leur replay. Et ensuite, ils se sont mis à faire de la fiction originale, des séries originales spécifiquement pour la plateforme.
Mais Salto, ça serait pas une sorte de protectionnisme des séries qui ne permettrait pas de visibilité à l'extérieur? Parce que si 10% a été connu à l'extérieur, c'est grâce à Netflix, pas à France 2. Vous qui avez travaillé sur 10% par ailleurs.
Non, mais...
Mais ouais. Moi, je suis peut-être un bisounours, mais je comprends pas que ce soit la guerre comme ça. Pourquoi on se protégerait de Netflix? Je sais pas, peut-être faire des amis, ou je sais pas, peut-être que France 2 sera fâché contre moi, mais moi, je trouve ça super que 10% ait été sur Netflix.
En tout cas, ça lui a donné une visibilité internationale.
Moi, j'adore quand mes potes à l'étranger, et j'en ai beaucoup, ils se trouvent à Los Angeles, parce que voilà, j'ai de la famille là-bas, m'appellent en me disant, hey, il y a une série française sur Netflix! Ben, voilà, ça me fait plaisir. Alors, je comprends, peut-être qu'on va me dire, pauvre petite scénariste, tu ne comprends pas les enjeux économiques qu'il y a derrière tout ça. Peut-être, mais moi je suis fière quand je vois 10% sur Netflix.
Les chaînes américaines, ce qu'elles font, c'est qu'elles gardent leurs droits nationaux et qu'elles vendent les droits internationaux à Netflix. Donc en fait, dans l'absolu, rien n'empêcherait que Netflix soit sur une plateforme franco-française en France, et qu'elle soit disponible sur les...
Oui, 10%.
10%, pardon.
Oui. Qu'est-ce que
j'ai dit ?
Netflix.
10% soit sur Salto, et que pour le reste du monde, elle soit sur Netflix.
Comme
c'est
ça,
le cas de beaucoup de séries américaines qui, aux États-Unis, ne sont pas visibles sur Netflix et que chez nous, on voit comme Netflix Original. Better Call Saul. Et Netflix Original en France, alors que c'est pas une série produite pour Netflix, mais pour AMC aux États-Unis.
Pierre Langlais.
Non, mais c'est je suis tout à fait juste en fait. C'est faut juste faire les bons accords, s'arranger, c'est capital. D'ailleurs, je pense que personne ne dirait le contraire que les séries françaises voyagent. On ne cesse, j'entendais dans le son au début de l'émission de Delphine Ernotte de dire oui, il faut qu'il y ait un rayonnement international, etc. Avec une erreur selon moi qui est de dire il faut faire des séries qui puissent rayonner à l'international, ce qui est une erreur de débutant, si j'ose dire. Aujourd'hui, tous les grands diffuseurs étrangers savent très bien qu'il faut pas faire des séries qui puissent rayonner à l'international. Il faut faire des bonnes séries locales qui peuvent marcher à l'international, mais c'est pas la peine de le calculer. Mmh. Et c'est la même chose finalement que ce qu'on discutait là. C'est bien que les séries françaises, elles soient faites pour le public français, donc elles soient accessibles au public français sur Salto ou ailleurs en France, et ensuite que le public international puisse en profiter via d'autres moyens.
Pourquoi en France il faut attendre des années avant le passage d'une série, d'une saison à une autre?
Alors, j'ai travaillé, je dois dire, sur deux séries qui ont pris leur temps, c'est-à-dire Hard sur Canal et Kabul Kitchen sur Canal, où quand je disais je fais la saison 3 de Kabul Kitchen, les gens me disaient « c'est pas fini Kabul Kitchen ?» Donc c'est peut-être un mauvais exemple, mais par exemple, en ce qui concerne les polars de France 2, les trois héros récurrents, Cain, Shérif et Candice, et j'espère bientôt au double jeu, on va tenter, eux reviennent tous les ans, et nous on va revenir tous les ans. C'est beaucoup de travail, en plus on a une toute petite saison, nous, par rapport aux Américains, Grey's Anatomy reviennent tous les ans, depuis 15 ans, avec 25 épisodes. Bon, ils sont 100 000 à travailler dessus. Ouais. Voilà. moi, dans mon petit atelier, si on a la chance d'avoir une saison 2, on reviendra exactement à la même période l'année prochaine. Voilà.
Séverine Barthes ?
Oui, ce retour d'année en année est aussi lié à des process de travail et des conceptions aussi. Il y a des gens qui veulent garder la main. Enfin, je pense qu'il y a de ça aussi, de cette fiction de l'auteur-réalisateur qui a beaucoup traversé notre cinéma et qui, dans les premiers temps de la
Qu'est-ce qui est pénalisé, selon vous, les revenants, par exemple, qui a mis du temps à revenir?
Oui, c'est évidemment, c'est cette idée
de vouloir... 3 ans, je crois, entre la première et la deuxième saison.
3 ans, 3 ans et demi, ouais.
Parce qu'évidemment, ces processus de travail avec beaucoup de personnes implique aussi que c'est pas tout le monde qui contrôle tout. Il y a des personnes référentes qui sont là et qui contrôlent le travail des autres ou qui l'organisent.
Ça va mieux.
Il faut pouvoir lâcher prise D'une certaine manière. Ah,
c'est la différence entre travailler sur une série et du cinéma, bien entendu, Pierre Langlais.
Et j'en reviens au principe de confiance aussi. Alors, ça fait pas tout, hein. Mais les Américains ont quand même une particularité, c'est que si une série marche bien au bout de 2-3 épisodes, bim,
ils la remettent en place.
Ils la remettent, on lui dit, l'année prochaine, vous revenez les mecs, et là, ils se mettent au boulot. Et en fait, les séries américaines sont produites, enfin, c'est ce qui se passe avec le Bureau des légendes, quasi, c'est-à-dire en France, c'est-à-dire que les séries sont écrites, produites, tournées dans un même mouvement quasi perpétuel. Or qu'en France, alors, on attend d'abord que la saison soit finie, puis ensuite, on se regarde dans le blanc des yeux, on fait une saison 2 ou pas? Allez, ok, c'est parti, le temps que toute la machine se remette en place, c'est trop tard. Au mieux, vous avez un an et demi, au mieux de mieux. C'est ce qu'a à peu près 10%, par exemple.
Et du coup, est-ce que là, le CNC qui a annoncé un plan série pour essayer d'aider l'industrie, entre guillemets, à se préparer non seulement à la concurrence de l'international, mais aussi à aider à la multiplication de formats, de formats 20 minutes et 52 minutes pour qu'il y ait notamment plus de créneaux. Vous y croyez, Séverine Barthes, au fait que ce plan série suffise?
Vous levez les yeux au ciel, on dirait une drama queen.
C'est mon côté pose. Il va y avoir plus d'argent, donc ça va permettre d'embaucher plus de gens, notamment le bonus ne sera plus, d'après ce que j'ai compris, le CNC bonifier un petit peu ce qu'il donnait pour les premières saisons, ça va s'étendre aux deuxièmes saisons. D'accord, pour ouais. pouvoir justement avoir cet flux. Effet d'entraînement du travail. Donc de ce point de vue-là, ça peut avoir un effet, mais cet effet ne sera pas très important si tout le reste, tout ce qui relève des mentalités, tout ce qui relève des conceptions préexistantes n'est pas modifié.
Camille Pouzol,
ça va. Moi, je trouve que ça va un petit peu mieux. Je suis vieille, ça fait longtemps que je travaille dans ce métier, mais je trouve que la confiance, justement, dont Pierre parlait, commence à... Voilà, on lance la saison 2, avant de savoir. On essaye d'avancer, mais je pense qu'il faut, il faut que ça aille encore plus vite, parce qu'il y a 153 validations du même épisode, avec tout le monde qui n'est pas d'accord. Et voilà, aujourd'hui, j'avoue que quand même, on écoute énormément, en l'occurrence, la créatrice, voilà.
Mais... Eh ben, c'est la bonne nouvelle de la soirée.
Ouais, merci, moi, en tout cas, on m'a beaucoup écouté.
Elle est signée Camille Pouzol. Double jeu, ça arrive vendredi prochain sur France 2. Séverine Barthes, le numéro 10 de la revue télévision consacrée aux mutations de la télévision, vient de paraître aux éditions du CNRS. Et Pierre Langlais, on vous retrouve bien sûr dans les pages de
Télérama.
Et voilà, c'est lui qui le dit.
Attention to heart.
Lunettes, guitare et ce son rétro, c'est la signature du Californien Nick Waterhouse dans le NRV. Et c'est fini pour aujourd'hui d'ailleurs. Le NRV cette année, c'est chaque jour, hein, dès 18h en avant-première sur franceinter.fr, en podcast, ou alors il faut attendre 22h minuit, mais quand on est patient, c'est pas mal aussi, à l'antenne. On reste en lien sur Facebook, sur Twitter et Instagram avec le hashtag NRVFI. Marion Lelay et Juliette Medevielle ont signé la réalisation. Virginie Rouzic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Margot Page, Gaëtan Lévy et Marie Mougin, ça c'est pour la préparation. À la technique ce soir, Nicolas Slimani et Charles Pellabon. Demain, on se retrouve toutes et tous et on sera là avec lui. Oui, une émission mégastar avec Khalid, le rappeur américain aux 500 millions de vues. À ses côtés, Kader Atouk, chorégraphie Allegria. Et dans le NRV la suite, la gauche en perdition. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.